Chapitre 47. Bénédiction des foudres. Un an plus tôt. Kaladine retourna la pierre entre ses doigts, laissant les facettes de quartz qu'elle contenait accrocher la lumière. Il était appuyé contre un grand rocher, un pied contre la roche, sa lance près de lui. La pierre accrochait la lumière, la faisait tournoyer en différentes couleurs selon l'orientation qu'il lui donnait. De splendides cristaux miniatures chatoyaient, comme les cités faites de gemmes dont parlaient les légendes. Autour de lui, l'armée du haut maréchal Amaram se préparait au combat. 6000 hommes affûtaient leurs lances ou fixaient leur armure de cuir. Le champ de bataille était tout proche, et comme l'on n'attendait aucune tempête majeure, l'armée avait passé la nuit dans des tentes. Il s'était écoulé près de 4 ans depuis qu'il avait rejoint l'armée d'Amaram par cette nuit pluvieuse. 4 ans. Une éternité. Les soldats allaient et venaient dans la hâte. Certains levèrent la main et saluèrent Kaladine. Il leur répondit d'un signe de tête, empocha la pierre, puis croisa les bras pour attendre. Non loin de là, l'étendard d'Amaram flottait déjà, un champ bordeaux orné d'une paire de glyphes vert sombre, prenant la forme d'un paléchine aux défenses levées. Merem et Kak. Honneur et détermination. L'étendard flottait devant un soleil levant, et la froideur matinale commençait à céder la place à la chaleur du jour. Kaladine se retourna, regard braqué vers l'est, vers un foyer qu'il ne pourrait jamais regagner. Il avait pris cette décision quelques mois plus tôt. Son engagement prendrait fin dans quelques semaines, mais il allait se réengager. Il ne pourrait pas affronter ses parents après avoir rompu sa promesse de protéger Tienne. Un soldat sombreris costaud le rejoignit en trottinant, une hache attachée dans son dos, des nœuds blancs sur les épaules. Cette arme inhabituelle était un privilège de chef d'escouade. Gar avait des avant-bras massifs et une épaisse barbe noire, bien qu'il ait perdu une grande portion de cuir chevelu du côté droit de sa tête. Il était suivi par deux de ses sergents, Nalem et Korabet.
« Kaladine, lui dit Gar, père des tempêtes, pourquoi est-ce que vous me harcelez un jour de bataille ?»«
Je suis tout à fait conscient de ce qui nous attend, Gar, répondit Kaladine, bras toujours croisés. Plusieurs compagnies se rassemblaient déjà et formaient des rangs. Dalet allait mener la propre escouade de Kaladine en position. À l'avant, avait-il décidé. Leur ennemi, un paliris nommé Alav, aimait beaucoup les volées longues. Ils avaient déjà combattu ces hommes à plusieurs reprises. L'une d'entre elles en particulier était gravée dans la mémoire et l'âme de Kaladine. Il avait rejoint l'armée d'Amaram en s'attendant à défendre les frontières Aleti, et il les avait défendues. Contre d'autres Aleti, de petits gouverneurs qui cherchaient à s'approprier des fragments des terres du haut prince Sadeas. De temps à autre, les armées d'Amaram tentaient de s'emparer de territoires appartenant à d'autres hauts princes, des terres dont Amaram affirmait qu'elles appartenaient en réalité à Sadeas, et qu'elles avaient été volées des années auparavant. Kaladine ne savait qu'en penser. De tous les Palziris, Amaram était le seul en qui il avait confiance. Mais il lui semblait qu'il faisait la même chose aux armées qu'il combattait. « Kaladine, demanda Gar avec impatience. « Vous avez quelque chose que je veux, répondit Kaladine. « Une nouvelle recrue, arrivée hier. Galan dit qu'il s'appelle Sen. » Gar fit la moue. « Je suis censé jouer à ce jeu avec vous maintenant. Venez me parler après la bataille. Si le gamin survit, peut-être que je vous le donnerai. » Il se détourna pour partir, suivi de ses acolytes. Kaladine se redressa bien droit et s'empara de sa lance. Ce geste arrêta Gar tout net. « Ça ne vous causera aucun problème, » dit Kaladine tout bas. « Contentez-vous d'envoyer le garçon dans mon escouade. Acceptez votre paiement. Ne dites rien. » Il sortit une bourse de sphère.
« Peut-être que je n'ai pas envie de le vendre, » répondit Gar en se détournant.
« Vous ne le vendez pas, vous me le transférez. » Gar étudia la bourse.
« Eh bien, dans ce cas, peut-être que je n'aime pas la façon dont tout le monde vous obéit. Je me moque bien de savoir si vous êtes doué avec une lance. Mon escouade n'appartient qu'à moi.
« Je ne vais plus rien vous accorder, Gar, » dit Kaladine en laissant tomber sa bourse à terre dans un tintement de sphère.
Nous savons tous les deux que ce garçon ne vous est d'aucune utilité. Pas d'entraînement, mal équipé, trop petit pour faire un bon soldat de rang. Envoyez-le-moi. » Kaladin se détourna et entreprit de s'en aller. Quelques secondes plus tard, il entendit un tintement tandis que Gar récupérait la bourse.
« Au moins, j'aurais essayé. » Kaladin continua à marcher.
« Qu'est-ce que ces recrues représentent pour vous, de toute façon ?» lui lança Gar. « Votre escouade est à moitié composée d'hommes trop petits pour se battre correctement. On croirait presque que vous cherchez à vous faire tuer. »
Kaladin l'ignora. Il traversa le camp, saluant ceux qui lui faisaient signe. La plupart des gens gardaient leur distance avec lui, soit parce qu'ils le connaissaient et le respectaient, soit parce qu'ils avaient eu vent de sa réputation. Le plus jeune chef d'escouade de l'armée, 4 ans d'expérience à peine, et déjà commandant. Un sombre Iris devait voyager dans les plaines brisées pour monter davantage en rang. Le camp était un tourbillon de soldats s'affairant précipitamment à des préparatifs de dernière minute. Des compagnies de plus en plus nombreuses se rassemblaient sur la ligne, et Kaladin voyait l'ennemi se mettre en rang sur la petite crête située à l'ouest de l'autre côté du terrain. L'ennemi, c'était le nom qu'on leur donnait. Mais chaque fois qu'éclatait un véritable différend sur les questions frontalières avec les Védènes ou les Réchis, ces hommes s'alliaient aux troupes d'Amaram, et ils se battaient ensemble. C'était à croire que la veille nuit s'amusait avec eux, se livrant à un jeu de hasard interdit, plaçant parfois les hommes de son plateau comme des alliés, avant de les faire s'entretuer le lendemain. Ce n'était pas au lancier de penser à ces choses-là. On le lui avait répété, encore et encore. Il aurait sans doute dû écouter, car il estimait que son devoir consistait à faire son possible pour garder son escouade en vie. Gagner était, de ce point de vue, secondaire.
On ne peut pas tuer pour protéger.
Il trouva facilement le poste du chirurgien. Il sentait l'odeur d'antiseptique et de la combustion de petits feux. Elle lui rappelait sa jeunesse, qui lui semblait à présent si lointaine. Avait-il vraiment eu l'intention de partir pour devenir chirurgien? Qu'étaient devenus ses parents? Et Rochaune? Tout ça n'avait plus aucun sens à présent. Il leur avait envoyé la nouvelle par le biais des scribes d'Amaram, un mot laconique qui lui avait coûté 1 semaine de salaire. Il savait qu'il avait échoué et qu'il ne comptait jamais revenir. Il n'avait reçu aucune réponse. Ven était le chirurgien en chef, un homme grand au nez bulbeux et au visage allongé. Il regardait ses apprentis plier des pansements. Un jour, Kaladin avait vaguement envisagé se faire blesser pour pouvoir les rejoindre. Tous les apprentis avaient l'un ou l'autre handicap qui les empêchait de se battre. Il n'y était pas parvenu. Se blesser lui-même lui semblait lâche. Par ailleurs, la chirurgie appartenait à son ancienne vie. D'une certaine façon, il ne la méritait plus. Kaladin voulut tirer une bourse de sphère de sa ceinture pour la lancer à Ven. La bourse resta toutefois coincée et refusa de se dégager. Kaladin jura tout en titubant et en tirant sur la bourse. Elle se dégagea soudainement, ce qui lui fit de nouveau perdre l'équilibre. Une forme blanche translucide s'en éloigna à toute allure, tournoyant d'un air insouciant.
« Saleté de sprène du vent, » dit-il.
Ils étaient courants dans ces plaines rocheuses. Il continua son trajet au-delà du pavillon de chirurgie et lança la bourse de sphère à Ven. L'homme de haute taille l'attrapa d'une main à droite et la fit disparaître dans une poche de sa volumineuse robe blanche. Le pot de vin assurerait que les hommes de Kaladin se fassent soigner les premiers sur le champ de bataille, à supposer qu'aucun paliris n'ait besoin de son attention. Il était temps de rejoindre la ligne. Il pressa le pas et se mit à trottiner, lance en main. Personne ne lui faisait de remarque parce qu'il portait un pantalon sous sa jupe de cuir de lancier, ce qu'il faisait afin que ses hommes le reconnaissent de derrière. En réalité, personne ne lui faisait d'histoire pour grand-chose, ces jours-ci. Ce qu'il trouvait toujours étrange, après avoir tellement lutté lors de ses premières années dans l'armée. Il n'avait toujours pas le sentiment d'y être à sa place. Sa réputation le distinguait, mais que pouvait-il y faire? Ça protégeait ses hommes des sarcasmes, et après plusieurs années passées à affronter une catastrophe après l'autre, il pouvait enfin prendre le temps de réfléchir. Il n'était pas certain d'apprécier ça. Réfléchir s'était révélé dangereux ces derniers temps.
il y avait un bon moment qu'il n'avait pas sorti cette pierre et pensé à Tien et à chez lui. Il se dirigea vers les premiers rangs et repéra ses hommes exactement là où il leur avait dit d'aller. « Dalet !» le héla Kaladin tout en s'approchant en courant du lancier colossal qui était le sergent de l'escouade. « Nous allons bientôt recevoir une nouvelle recrue. J'ai besoin que vous... » Il laissa sa phrase en suspens. Un jeune homme qui devait avoir dans les 14 ans se tenait près de Dalet, l'air minuscule dans son armure de lancier. Kaladin éprouva une brève réminiscence. Un autre garçon, au visage familier, tenant une lance dont il n'était pas censé avoir besoin. Deux promesses rompues à la fois.
« Il nous a rejoints il y a quelques minutes à peine, commandant, » expliqua Dalet. « J'étais en train de le préparer. »
Kaladin s'arracha à ce souvenir. Tien était mort, mais père des tempêtes que ce nouveau garçon lui ressemblait. « Parfait, » dit Kaladin à Dalet, s'obligeant à détourner le regard de Sen. « J'ai payé une belle somme pour reprendre ce garçon à gare. Cet homme est d'une telle incompétence qu'il pourrait tout aussi bien se battre pour l'autre camp. » Dalet acquiesça d'un grognement. « Les hommes sauraient que faire de Sen. »« Très bien, » se dit Kaladin, balayant du regard le champ de bataille en quête d'un bon emplacement pour ses hommes. « Allons-y. » Il avait entendu des récits sur les soldats qui se battaient dans les plaines brisées. Les vrais soldats. Si l'on se montrait assez prometteur lors de ces querelles de frontières, on s'y faisait envoyer. C'était censé être un endroit plus sûr, beaucoup plus de soldats, mais moins de batailles. Kaladin voulait donc y faire envoyer son escouade le plus rapidement possible. Il s'entretint avec Dalet, choisissant un emplacement. Enfin, la sonnerie des cors retentit. L'escouade de Kaladin chargea.
« Où est le garçon ?» demanda Kaladin, arrachant sa lance de la poitrine d'un homme en marron. Le soldat ennemi tomba à terre avec un gémissement. « Dalet !» Le robuste sergent se battait. Il ne put pas se retourner pour répondre à son appel. Kaladin jura et balaya du regard le champ de bataille chaotique. Des lances heurtaient les boucliers, la chair, le cuir. Des hommes criaient et hurlaient. Des sprènes de douleur grouillaient sur le sol, comme de petites mains oranges ou des fragments de muscles, s'élevant du sol au milieu du sang des blessés. L'escouade de Kaladin était au complet, avec ses blessés protégés au centre. Tous, sauf ce nouveau garçon. Tien. Sen, se dit Kaladin. Il s'appelle Sen.
Kaladin entrevit une tache verte au milieu du brin de l'ennemi. Une voix terrifiée parvenait à transpercer le tapage. C'était lui. Kaladin s'arracha à la formation, tirant un cri de surprise à Larn, qui s'était battu à ses côtés. Kaladin se baissa pour éviter une lance jetée par un ennemi, filant sur le sol rocheux, enjambant des corps. Sen avait été jeté à terre, la lance brandie. Un soldat ennemi abaissa violemment son arme. Non. Kaladin para le coup, dévia la lance ennemie et s'arrêta en glissant devant Sen. Il y avait là 6 lanciers, tous vêtus de brun. Kaladin se mit à tournoyer parmi eux en exécutant une offensive sauvage. Sa lance semblait voler d'elle-même. Il déséquilibra un homme et en abattit un autre d'un lancer de couteau. Il était pareil à l'eau qui coule le long d'une colline, fluide, toujours en mouvement. Les têtes de lance volaient dans l'air autour de lui. Personne ne pouvait l'arrêter lorsqu'il était comme ça. Lorsqu'il avait l'énergie de défendre les vaincus, le pouvoir de se dresser pour protéger l'un de ses hommes. Kaladin replaça sa lance en position de repos, s'accroupit avec un pied en avant, un derrière, tenant sa lance sous le bras. La sueur coulait de son front, rafraîchi par la brise. Curieux. Il n'y avait pas de vent l'instant d'avant. Il semblait à présent l'envelopper. Les 6 lanciers ennemis étaient morts ou trop blessés pour se battre. Kaladin inspira et expira une fois, puis se retourna pour s'occuper de la blessure de Sen. Il laissa tomber sa lance près de lui et s'agenouilla. La plaie n'était pas si grave, mais elle devait faire atrocement souffrir le garçon. Tout en tirant un pansement, Kaladin accorda un bref coup d'œil au champ de bataille. Non loin de là, un soldat ennemi remua. Mais il était assez blessé pour ne pas pouvoir lui causer d'ennui. Dalet et le reste de l'équipe de Kaladin dégageaient la zone des derniers ennemis. Un peu plus loin,
un Paliris ennemi de haut rang rassemblait un petit groupe de soldats pour une contre-attaque. Il portait une armure de plate. Pas une cuirasse d'éclat, bien sûr, mais de l'acier argenté. Un homme riche, à en juger par son cheval. En un battement de cœur, Kaladin se remit à panser la jambe de Seine, tout en surveillant du coin de l'œil le soldat ennemi blessé.
« Kaladin, commandant !» s'écria Seine en désignant le soldat qui venait de remuer.
« Père des tempêtes !» Le garçon venait-il à peine de remarquer cet homme ? Le sens du combat de Kaladin avait-il jamais été aussi émoussé que le sien ?
Dalet repoussa l'ennemi blessé. Le reste de l'escouade adoptait une formation en cercle autour de Kaladin, de Dalet et de Seine. Kaladin termina son pansement, puis se leva en ramassant sa lance. Dalet lui rendit ses couteaux.
« Vous m'avez fait peur, commandant, à cavaler comme ça. »«
Je savais que vous alliez me suivre, » répondit Kaladin. « Dressez la bannière rouge. Signe, corps à terre, rentrez avec le garçon. Dalet, attendez ici. Les rangs d'Amaram avancent vers nous. Nous devrions bientôt être tirés d'affaire. »
« Et vous, commandant ?» demanda Dalet.
Non loin de là, le Paliris avait échoué à rassembler assez de troupes. Il était exposé, comme une pierre abandonnée près d'un cours d'eau qui s'asséchait.
« Un porte-éclat !» dit Seine.
Dalet ricana.
« Non, le père des tempêtes soit loué. Un simple officier Paliris. Les porte-éclats sont beaucoup trop précieux pour qu'on les gaspille dans des conflits frontaliers mineurs. »
Kaladin serra la mâchoire en regardant ce guerrier Paliris. Comme cet homme se croyait puissant, juché sur son cheval coûteux, protégé des lanciers par son armure majestueuse et sa haute monture. Il agitait sa masse et tuait ceux qui l'entouraient. Ces escarmouches étaient provoquées par des gens comme lui, des Palsiris mineurs et cupides qui cherchaient à voler des terres pendant que les meilleurs hommes étaient au loin à combattre les Parchendi. Les gens comme lui subissaient nettement moins de pertes que les lanciers, si bien que les vies auxquelles ils commandaient devenaient de bien peu de valeur. De plus en plus souvent, ces dernières années, chacun de ces Palsiris de moindre rang en était venu à représenter Roshon aux yeux de Kaladin. Seul Amaram lui-même se distinguait. Amaram qui avait si bien traité le père de Kaladin, promettant de garder Tien à l'abri. Amaram qui parlait toujours avec respect, même au plus humble des lanciers. Il était pareil à Dalinar et à Sadeas, pas à cette racaille. Bien sûr, Amaram avait échoué à protéger Tien. Mais Kaladin aussi.
« Commandant ?»
demanda Dalet d'une voix hésitante.
« Division d'escouade 2 et 3, formation en tenaille !» ordonna froidement Kaladin en désignant le Paliris ennemi.
« Nous allons chasser un clarissime de son trône. »
« Vous êtes sûr que ce soit judicieux, commandant ?» demanda Dalet. « Nous avons des blessés. »
Kaladin se tourna vers Dalet.
« C'est l'un des officiers de Halav. Ce sera peut-être le bon. »«
Vous n'en savez rien, commandant. »«
Quoi qu'il en soit, c'est un chef de bataillon. Si nous tuons un officier si haut placé, nous avons quasiment la garantie de faire partie du prochain groupe qu'on enverra aux plaines brisées. Nous allons l'attaquer.
Imaginez un peu, Dalet, de vrais soldats. Un camp de guerre où règne la discipline, des Palsiris intègres, un endroit où nous battre signifiera quelque chose. »
Dalet soupira, mais acquiesça. Sur un signe de Kaladin, deux divisions d'escouade le rejoignirent, aussi impatientes que lui. Ces hommes détestaient-ils eux-mêmes ces Palsiris querelleurs, ou avaient-ils perçu la haine de Kaladin ? Le clarissime se révéla étonnamment facile à vaincre. Le problème avec eux, presque chacun d'entre eux, était qu'ils sous-estimaient les sombres iris. Peut-être celui-ci en avait-il le droit ? Combien en avait-il tué lors de ses années de service ? La division d'escouade numéro 3 attira la garde d'honneur au loin. La numéro 2 détourna l'attention du pâle iris. Il ne vit pas Kaladin approcher d'une troisième direction. L'homme s'effondra, un couteau dans l'œil. Son visage n'était pas protégé. Il hurla en tombant à terre dans un fracas métallique, toujours en vie. Kaladin planta sa lance dans le visage de l'homme tombé à terre et frappa trois coups tandis que le cheval s'éloignait au galop. La garde d'honneur de l'homme paniqua et s'enfuit pour rejoindre leur armée. Kaladin fit signe aux deux divisions d'escouade en cognant sa lance contre son bouclier
pour leur ordonner de rester en position. Ils se déployèrent, et le petit Tourim, un homme que Kaladin avait tiré d'une autre escouade, fit semblant de confirmer que le Paliris était bien mort. En réalité, il cherchait discrètement des sphères.
Voler les morts était strictement interdit. Mais Kaladin se disait, si Amaram voulait le butin, qu'il n'avait qu'à tuer l'ennemi lui-même.
Kaladin respectait Amaram plus que la plupart des Palziris, enfin, plus que tous. Mais les pots de vin coûtaient cher. Tourim se dirigea vers lui.
« Rien, commandant. Soit il n'a pas apporté de sphères au combat, soit il les a cachées quelque part sous ce plastron. »
Kaladin répondit d'un bref signe de tête tout en étudiant le champ de bataille. L'armée d'Amaram regagnait du terrain. Elle remporterait la bataille sous peu. En fait, Amaram devait être en train de mener un assaut direct contre l'ennemi en ce moment même. Il entrait généralement dans la bataille vers la fin. Kaladin s'épongea le front. Il allait devoir envoyer chercher Norbi, leur capitaine, pour attester la mort du Paliris. D'abord, il avait besoin que ses soigneurs...
« Commandant !»
l'appela soudain Tourim. Kaladin regarda en direction des lignes ennemies.
« Père des tempêtes !» s'exclama Tourim. « Commandant !»
Tourim ne regardait pas les lignes ennemies. Kaladin se retourna en direction des rangs alliés. Là, traversant les rangs des soldats sur un cheval ayant la couleur de la mort elle-même. Il vit quelque chose d'impossible. L'homme portait une armure d'or luisante, une armure d'or parfaite, comme si c'était ce que toutes les autres armures avaient été conçues pour imiter. Chaque pièce s'ajustait minutieusement. Il n'y avait aucun trou dévoilant des lanières ou du cuir. Elle faisait paraître le cavalier énorme et puissant. Comme un dieu, portant une lame majestueuse qui aurait dû être trop grosse pour qu'il s'en serve. Elle était gravée, d'une élégante conception, et avait la forme de flamme en mouvement.
« Père des tempêtes !» souffla Kaladin.
Le porte-éclat surgit des lignes d'Amaram. Il les avait traversées au galop, abattant des hommes sur son passage. L'espace d'un bref instant, l'esprit de Kaladin refusa d'admettre que cette créature, cette splendide divinité, puisse être un ennemi. Le fait que le porte-éclat soit venu en traversant leur rang renforçait cette illusion. Sa confusion se prolongea jusqu'au moment où le porte-éclat piétina Sène, baissa sa lame d'éclat et trancha la tête de Dalet d'un coup unique et fluide.
« Non !»
hurla Kaladin.
« Non !»
Le corps de Dalet retomba à terre, et ses yeux semblèrent s'enflammer tandis que de la fumée s'en échappait. Le porte-éclat abattit Sine et piétina Lindel avant de repartir. Le tout exécuté avec nonchalance, comme une femme qui s'arrête pour nettoyer une tache sur le comptoir.
« Non !»
hurla Kaladin en se précipitant vers les victimes de son escouade. Il n'avait perdu personne lors de cette bataille. Il allait tous les protéger. Il tomba à genoux près de Dalet et lâcha sa lance. Mais il n'y avait pas de pouls, et ses yeux brûlés. Il était mort. La douleur menaça de terrasser Kaladin.
« Non !»
protesta la partie de son esprit formée par son père.
« Sauve ceux que tu peux !»
Il se retourna vers Sène. Le garçon avait reçu un sabot en pleine poitrine, qui lui avait fêlé le sternum et brisé les côtes. Le garçon cherchait son souffle, regard levé vers le ciel, luttant pour respirer. Kaladin sortit un pansement, puis marqua un temps d'arrêt en le regardant. Un pansement ? Pour réparer une poitrine brisée ? La respiration sifflante de Sène s'arrêta. Il se convulsa une fois, les yeux toujours ouverts.
« Il regarde !»
siffla le garçon.
« Le noir joueur de flûte de la nuit, il nous tient dans sa paume. Il joue un air que personne n'entend. »
Le regard de Sène se voila. Il cessa de respirer. Le visage de Lindel avait été enfoncé. Les yeux de Sine brûlaient, et lui non plus ne respirait plus. Kaladin s'agenouilla dans le sang de Sène, horrifié, tandis que Tourim et les deux divisions d'escouade se rassemblaient autour de lui, l'air tout aussi abasourdi.
Ce n'est pas possible. Je...
Des hurlements. Kaladin leva les yeux. La bannière vert et bordeaux d'Amaram flottait juste au sud. Le porte-éclat avait traversé l'escouade de Kaladin en se dirigeant tout droit vers cette bannière. Des lanciers s'enfuyaient, en proie au désarroi, hurlant et s'éparpillant devant le porte-éclat. La colère monta en Kaladin.
« Commandant !» demanda Tourim.
Kaladin reprit sa lance et se leva. Ses genoux étaient couverts du sang de Sen. Ses hommes le regardèrent, déroutés. Ils tenaient bon au milieu du chaos. Pour autant que Kaladin puisse s'en rendre compte, ils étaient les seuls à ne pas s'enfuir. Le porte-éclat avait réduit les rangs en bouillie. Kaladin leva sa lance en l'air, puis se mit à courir. Ses hommes poussèrent un cri de guerre et se mirent en formation derrière lui, chargeant sur le sol plat et rocheux. Des lanciers en uniforme des deux couleurs s'écartèrent tant bien que mal, lâchant leurs lances et leurs boucliers. Kaladin accéléra, martelant le sol de ses jambes, avec son escouade qui peinait à suivre le rythme. Droit devant lui, juste avant le porte-éclat, une nappe de verre se dispersa et se mit à courir. La garde d'honneur d'Amaram. Face à un porte-éclat, ils abandonnaient leur charge. Amaram lui-même était un homme solitaire sur un cheval cabré. Il portait une armure de plate argentée qui semblait si ordinaire comparée à la cuirasse d'éclat. L'escouade de Kaladin chargea à contre-courant de l'armée, triangle de soldats se dirigeant dans le mauvais sens, les seuls à aller dans le mauvais sens. Plusieurs des hommes en fuite hésitèrent en le voyant charger, mais aucun ne se joignit à lui. Devant, le porte-éclat dépassa Amaram. D'un ample coup de sa lame, le porte-éclat trancha l'encolure de la monture d'Amaram. Ses yeux brûlèrent et se changèrent en deux immenses cratères, et elle bascula, agitée de spasmes, avec Amaram toujours en selle. Le porte-éclat fit pivoter son destrier en une volte étroite, puis se jeta au bas de la selle à pleine vitesse. Il heurta le sol avec un grincement, et parvint curieusement à rester debout et à s'arrêter en dérapant. Kaladin redoubla de vitesse. Courait-il pour se venger, ou cherchait-il à protéger le haut maréchal, le seul pâle iris à lui avoir jamais témoigné un tant soit peu d'humanité? Quelle importance! Amaram se débattait dans son armure encombrante, la jambe coincée par la carcasse du cheval. Le porte-éclat leva sa lame à deux mains pour l'achever. Fonçant sur le porte-éclat par derrière, Kaladin hurla et porta un coup bas de la hampe de sa lance, nourrissant son cou de tous ses muscles et de toute sa vitesse acquise. La hampe de la lance se brisa contre le jarret du porte-éclat dans une gerbe d'éclats de bois. L'impact projeta Kaladin à terre, les bras tremblants, serrant la lance brisée dans ses mains. Le porte-éclat trébucha et baissa sa lame. Il tourna vers Kaladin, son visage masqué par le casque, avec une posture trahissant une surprise totale. Les 20 hommes restants de l'escouade de Kaladin arrivèrent un battement de cœur plus tard et attaquèrent énergiquement. Kaladin se releva tant bien que mal et courut s'emparer de la lance d'un soldat mort. Il jeta sa lance brisée après avoir dégainé l'un de ses couteaux, ramassa la neuve à terre, puis se retourna pour voir ses hommes attaquer comme il le leur avait appris. Ils abordèrent l'ennemi sous trois angles différents, plongeant leur lance entre les jointures de la cuirasse. Le porte-éclat regarda autour de lui, comme un homme regarderait, amusé, une meute de chiots en train de japper. Pas un seul des coups de lance ne sembla transpercer son armure. Il secoua sa tête casquée, puis il frappa. La lame d'éclat décrivit une ample série de coups mortels, terrassant 10 des lanciers. Kaladin resta paralysé d'horreur, tandis que Tourim, Assis, Amel et 7 autres tombaient à terre, les yeux brûlants, l'armure et les armes tranchées de part en part. Les lanciers restants reculèrent en titubant, atterrés. Le porte-éclat attaqua de nouveau, tuant Raksha, Navar et 4 autres. Kaladin le regarda bouche bée. Ses hommes, ses amis, morts en un clin d'œil. Les 4 derniers s'éloignèrent précipitamment, et Ab trébucha sur le corps de Tourim et tomba à terre, lâchant sa lance. Le porte-éclat les ignora pour s'avancer de nouveau vers Amaram cloué au sol.
« Non, se dit Kaladin. Non, non, non.
Quelque chose le poussait vers l'avant, contre toute logique, contre toute raison. Écœuré, angoissé, furieux. La cuvette où il se battait était vide à l'exception d'eux-mêmes. Les lanciers plus raisonnables avaient pris la fuite. Ces quatre hommes restants atteignirent la crête un peu plus loin, mais ne prirent pas la fuite. Ils l'appelèrent. « Kaladin !» hurla Rèche. « Kaladin, non !» Au lieu de quoi, Kaladin se mit à hurler. Le porte-éclat le vit et pivota à une vitesse impossible, tout en agitant son arme. Kaladin se baissa pour éviter le coup et enfonça le bout de la hampe de sa lance dans le genou du porte-éclat. Il rebondit. Kaladin jura et se jeta en arrière alors même que la lame fendait l'air devant lui. Kaladin reprit son équilibre et se précipita en avant. Il porta un coup expert vers le cou de son ennemi. Le gorgerin dévia le coup. La lance de Kaladin érafla à peine la peinture de la cuirasse. Le porte-éclat se retourna vers lui, tenant sa lame à deux mains. Kaladin le dépassa à toute allure, se plaçant tout juste hors de portée de cette incroyable épée. Amaram avait enfin réussi à se dégager et s'éloignait en rampant, traînant une jambe derrière lui, fracture multiple, à l'avoir tordue ainsi. Kaladin s'arrêta en dérapant, fit volte-face et regarda le porte-éclat. Cette créature n'était pas un dieu. C'était tout ce que représentaient les plus mesquins des pâles iris, la capacité de tuer des gens comme Kaladin en toute impunité. Chaque cuirasse possédait un défaut. Chaque homme possédait une faille. Kaladin crut apercevoir les yeux de l'homme par la visière du casque. Elle était juste assez grande pour laisser passer un poignard, mais il faudrait que le coup soit parfait. Il faudrait frapper de près, mortellement près. Kaladin chargea de nouveau. Le porte-éclat agita sa lame du même geste ample qu'il avait utilisé pour tuer ses hommes en si grand nombre. Kaladin se jeta à terre, glissant sur les genoux et se penchant en arrière. La lame d'éclat le frôla, tranchant le haut de sa lance. La pointe se retrouva projetée dans les airs en tournoyant sur elle-même. Au prix d'un effort, Kaladin se redressa d'un bond. Il leva brusquement la main pour lancer son couteau vers les yeux qui le regardaient de derrière cette armure impénétrable. Le poignard heurta la visière à un angle légèrement décalé, rebondit contre les parois de la fente et ricocha. Le porte-éclat jura et visa Kaladin de sa lame immense. Kaladin atterrit sur ses pieds, toujours propulsé en avant par la vitesse acquise. Quelque chose le frôla dans les airs, tombant vers le sol, la tête de lance. Avec un cri de défi, il se mit à pivoter pour rattraper la tête de lance dans les airs. Elle tombait avec la pointe vers le bas, et il la rattrapa par les 10 centimètres de manche qui restaient, avec le pouce sur le moignon, la pointe acérée tendue en dessous de sa main. Le porte-éclat tenta de porter un coup latéral, tandis que Kaladin s'arrêtait en dérapant et projetait brusquement son bras sur le côté pour planter la tête de lance en plein dans la visière du porte-éclat. Le silence se fit. Kaladin se tenait debout avec le bras tendu, le porte-éclat juste sur sa droite. Amaram avait réussi à remonter la moitié de la paroi de la cuvette en se traînant. Les camarades de Kaladin se tenaient au bord de la Seine, bouche bée. Kaladin resta immobile, haletant, serrant toujours le manche de la lance, la main devant le visage du porte-éclat. Avec un grincement, le porte-éclat tomba en arrière et alla s'effondrer à terre. Sa lame tomba de ses doigts, heurta le sol selon un angle incliné et s'enfonça dans la pierre. Kaladin s'éloigna en titubant, vidé, hébété, engourdi. Ses hommes se précipitèrent et s'arrêtèrent en groupe pour regarder l'homme tombé à terre. Ils étaient stupéfaits, peut-être même un peu impressionnés. « Est-ce qu'il est mort ?» demanda à la bête tout bas. « Oui, » répondit une voix sur le côté. Kaladin se retourna. Amaram était toujours étendu à terre, mais il avait retiré son casque, et ses cheveux et sa barbe noire étaient humides de sueur. S'il était toujours en vie, sa lame se serait évanouie. Son armure est en train de tomber. Il est mort. Sang de mes ancêtres,
Vous avez tué un porte-éclat. »
Curieusement, Kaladin n'était pas surpris, simplement épuisé. Il regarda autour de lui le cadavre des hommes qui avaient été ses amis les plus chers.
« Prenez-la, Kaladin, » dit Koreb.
Kaladin se retourna pour regarder la lame d'éclat plantée de biais dans la pierre, la poignée tendue vers le ciel.
« Prenez-la, » répéta Koreb. « Elle est à vous, père des tempêtes, Kaladin. Vous voilà devenu porte-éclat. »
Kaladin s'avança, hébété, levant la main vers la poignée de la lame. Il hésita à 2 centimètres d'elle. Tout semblait anormal. S'il prenait cette lame, il deviendrait l'un d'entre eux. Même ses yeux changeraient, si les récits disaient vrai. Bien que la lame scintille à la lumière, vierge des meurtres qu'elle avait commis, il l'avait vue rouge l'espace d'un instant, tachée par le sang de Dalet, le sang de Tourim, le sang d'homme qui était en vie quelques instants auparavant. C'était un trésor. Des hommes vendaient des royaumes pour des lames d'éclat. La poignée de sombres iris qui les avait remportés vivait éternellement dans les chants et les histoires. Mais l'idée de toucher cette lame le dégoûtait. Elle représentait tout ce qu'il en était venu à détester chez les pâles iris, et elle venait de massacrer des hommes qu'il aimait profondément. Il ne pouvait pas devenir une légende simplement à cause de quelque chose de ce genre. Il regarda son reflet dans le métal impitoyable de la lame, puis baissa la main et se détourna. « Elle est à vous, Koreb, » dit Kaladin. « Je vous la donne. »
« Quoi ?»
dit Koreb derrière lui. Devant eux, la garde d'honneur d'Amaram était revenue et apparut d'un air inquiet au sommet de la petite cuvette, l'air honteux. « Que faites-vous ? » demanda Amaram lorsque Kaladin passa devant lui. « Quoi ? Vous n'allez pas prendre cette lame ?»«
Je n'en veux pas, » répondit doucement Kaladin.
« Je la donne à mes hommes. »
Kaladin s'éloigna, épuisé émotionnellement, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'il sortait de la cuvette et se frayait un chemin à travers la garde d'honneur. Il regagna seul le camp de guerre.